Serena Victor était mon élève du dimanche après-midi. Depuis près de 2 mois, on se voyait 2 heures chaque semaine. Préparation au SAT pendant la première, aide aux devoirs pendant la seconde. Je n'étais pas la première tutrice de Serena. Dina m'avait informé qu'une autre m'avait précédée, dont ils avaient dû se séparer. Le sous-entendu était on ne peut plus clair. Si Serena ne progresse pas, vous êtes virée. En général, Serena avait besoin d'aide pour ses cours avancés de grammaire et littérature, et parfois de chimie. Elle n'était pas allée au lycée depuis 2 semaines. Je devais donc veiller à ce qu'elle ne prenne pas de retard. Le mal mystérieux qui l'affligeait n'était pas contagieux, m'avait assuré sa mère. Mais c'était tout de même assez grave pour que Serena reste à la maison, où ses parents pouvaient garder un œil sur elle. La préparation au SAT demeurait notre objectif principal. Elle obtenait en moyenne un score de 1350 aux examens blancs. Son meilleur résultat était 1480, son plus mauvais, 1220. Pour une gamine qui aspirait à étudier les lettres et les sciences humaines dans une fac hors de prix, elle était étonnamment douée en maths. C'était la discipline que je préférais enseigner. J'aimais ses formules élégantes, ses pièges et ses répétitions. Il est plus compliqué d'appliquer une méthodologie fiable à la compréhension écrite, par exemple. Les progrès de mes élèves dans ces matières étaient irréguliers et imprévisibles. Les baisses de scores et les échecs plus difficiles à expliquer à leurs parents. Des parents qui pouvaient être classés en 2 catégories. Il y avait ceux qui dégoulinaient de gratitude et me remerciaient avec effusion pour l'aide précieuse que j'apportais à leurs gosses. Et ceux qui doutaient aussi bien de mes compétences que de la légitimité d'un taux horaire aussi élevé et ne s'en cachaient pas. Les Victor, cependant, semblaient réellement m'apprécier. Peter, le père de Serena, bossait dans la finance. Une sorte de banquier. C'est tout ce que je savais. Je l'imaginais bâtir des fortunes sur les dettes d'autrui. Laisser les zéros se multiplier sur les comptes en banque pendant qu'il passait ses étés à Majorque, Monaco ou Martha's Vineyard. C'était un homme petit, au bronzage artificiel et aux cheveux blonds foncés striés d'argent. Il était en général absent pendant mes sessions avec Serena. Mais les rares fois où il m'avait accueilli à la porte, il l'avait fait avec la douceur désarmante d'un homme qui se retrouve seul dans une maison remplie de femmes. Je connaissais bien les hommes de son genre. Il se voyait comme un médiateur, la voix de la raison, la seule personne capable de contrebalancer par sa placidité cette hystérie nourrie aux œstrogènes. Je ne sais pas exactement quand Peter a rencontré Dina, ni dans quelles circonstances. Mais je sais que c'était une actrice relativement célèbre avant qu'ils se marient. Elle avait abandonné sa carrière à la naissance de Serena, au sommet de sa gloire. Elle avait joué dans un drame nommé aux Oscars sur un jeune athlète sorti de l'ombre, qui devient une star après avoir remporté une victoire inattendue. On avait décidé de le mater un jour avec des potes, après avoir fumé quelques joints. Dina incarne la petite copine sexy du protagoniste, qui refuse de le quitter quand il se blesse au genou. Grâce à son soutien indéfectible, il surmonte courageusement cette douloureuse épreuve. J'ai aimé ce film plus que je ne voulais l'admettre. Et puis il y avait Serena. Serena Victor était une jeune fille timide, de 17 ans, aux cheveux de lin lisses et brillants, qui ressemblait à une poupée de porcelaine. Elle portait des robes et des jupes avec des gros pulls boulochés qu'elle avait dénichés dans des friperies, et ses jambes étaient recouvertes d'un duvet blond soyeux. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, ses cheveux lui descendaient presque jusqu'à la taille. La 3e semaine, elle les avait fait couper à la Jean Seberg. C'est elle-même qui m'avait donné cette référence, sans doute pour me montrer qu'elle savait qui était Jean-Luc Godard. Malgré sa beauté, je suspectais qu'elle n'était pas très populaire au lycée. Elle faisait partie de ces ados qui essayent de se forger une identité basée sur leurs goûts littéraires, musicaux et cinématographiques. Et elle était facilement gênée et prompte à juger les autres. C'était assez injuste, mais j'étais prédisposée à ne pas l'aimer. Sa timidité me rappelait les gosses de riches à sociaux avec lesquels j'étais allée à la fac, qui déambulaient sans but sur le campus, en fumant des clopes et en tirant la gueule. Je n'avais aucun mal à visualiser son avenir. un master en poésie, un doctorat en littérature baroque. Elle jouerait à la vie de bohème dans une maison victorienne de Mission District à San Francisco. J'en savais assez sur son petit ami, Lucas, pour comprendre le genre de mec qui lui plaisait. Grâce au fond d'écran de son iPhone et au Polaroid qu'elle avait glissé à l'arrière de la coque, je voyais à peu près de quoi il avait l'air. Une tignasse de cheveux longs et négligés, d'un blond sale, la version grunge des boucles d'or de Serena. Une mâchoire carrée et des joues concaves, si bien que sa peau ressemblait à de la cire fondue sur un crâne. Lucas était végétarien et fumait des roulés. D'ici quelques années, Serena l'échangerait contre des modèles plus rutilants. Des variations sur le même homme, dont les goûts culturels pointus assureraient leur crédibilité dans les milieux alternatifs. T-shirt délavé à l'effigie de groupe dont personne n'avait jamais entendu parler, cheveux gras, basket vintage, moustache, tatouage and poc. Il serait riche, tout comme Serena, mais il le cacherait bien. Elle finirait par se fiancer à un mec qui bosse dans la tech, peut-être d'origine suédoise ou norvégienne, qui développerait des applications, prendrait régulièrement de la MDMA et se considérerait comme un expert du hip-hop américain. Ou bien un fils à papa new-yorkais, qui travaillerait dans l'immobilier et jouerait le week-end dans un groupe de reprise de Dinosaur Jr. Pendant ce temps, Serena peindrait, collectionnerait les œuvres d'art ou ouvrirait un centre de bien-être haut de gamme tout en terminant sa thèse sur la mélancolie et le corps féminin dans la poésie pastorale anglaise. Cette analyse vous paraîtra peut-être cruelle ou mesquine. Et sans doute l'est-elle un peu. Mais je n'essayerai pas de me justifier. Si ça peut vous rassurer, sachez que Serena n'a jamais été exposée à mes mauvaises pensées. J'excellais dans l'art de feindre que je l'appréciais. Et soyons honnêtes, mon opinion sur sa personne n'avait aucune importance. Elle vivait dans la plus belle maison que j'aurais jamais l'occasion de visiter. Une maison que je n'aurais jamais les moyens de me payer. Une maison si fabuleuse qu'elle ne semblait pas appartenir au même monde que moi. Et pourtant, elle existait bel et bien, nichée dans les collines de Los Feliz, au milieu des villas de style néo-Tudor, colonial espagnol et chalet suisse. Dans le salon, un puits de lumière vert d'eau filtré à travers un prisme de vitraux inspiré de l'arbre de vie de Klimt. Un dédale de couloirs traversait la maison sans logique apparente, imprévisible et presque surréaliste. Le mobilier choisi par Dina Victor évoquait l'âge d'or d'Hollywood avec ses longs canapés en velours et ses lustres médiévaux. Des tapis persans, du carrelage marocain bleu-vert dans la salle de bain, des baignoires opalescentes comme des ventres de coquillages avec des serres dorées en guise de pied. 2 heures durant, chaque semaine, nous travaillons dans la salle à manger, parfois dans le salon ou la cuisine. Au cours de ces 2 heures, la moitié de mon esprit se concentrait sur la tâche pour laquelle j'étais payée. Enseigner à Serena les paraboles, les anacolutes et le théorème de Pythagore. L'autre moitié voyageait à travers ses pièces, se délectant de chaque détail. Le pain de savon à 100 dollars l'unité fait de jasmin et de safran. Les ascendettes. La table à bord brut taillée dans du bois portugais. Les polynômes. Le papier peint de Gournay, fait de soie peinte à la main. Le parallélisme. Je n'en suis pas fière, mais je dois admettre que je fais partie de ces gens que les belles baraques émoustillent. Plus elles sont vieilles, mieux c'est. Dans des moments de faiblesse, j'assouvis mes besoins en matant les petites annonces immobilières sur Zillow. Mais pour appréhender la villa des Victor, il m'a fallu mettre à profit mon coûteux diplôme d'histoire de l'art. L'architecte était l'artiste surréaliste Emmanuel Bessos, un aristocrate espagnol venu en Californie pour travailler dans l'industrie du cinéma, laquelle n'en était à l'époque qu'à ses balbutiements. Il construisait des décors pour des comédies musicales et des épopées historiques, des escaliers si hauts qu'ils disparaissaient dans les nuages, des salles de bal féeriques, des jardins et des chaînes de montagnes. La maison des Victor est l'une des 3 résidences qu'il a conçues à Los Angeles dans les années 1920.